Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette deuxième journée de rencontre qui s'intitule L'Inde vue par, dans le cadre de l'exposition Paris-Delhi-Bombay. Donc, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui, nous les avons déjà rencontrés hier, mais donc de nouveau aujourd'hui, Sudhir Kakkar, qui vient d'Inde, qui vit là-bas, et Manil Suri, qui vient des États-Unis. Voilà, donc Gérard Medal va animer cette rencontre entre ces deux écrivains. Et ensuite, il y aura une table ronde autour de la traduction. Voilà, donc je vous rappelle que les auteurs parlent en anglais, donc vous avez des casques à votre disposition pour la traduction. Bonne rencontre et bon après-midi. Merci.
Merci Florence, merci à vous, bienvenue pour cette rencontre. Alors quelques détails pratiques, je poserai aux auteurs les questions en français, je pense que c'est plus commode pour nous tous ici réunis. En revanche, les auteurs répondront en anglais, donc si vous souhaitez avoir une traduction simultanée, il faut que vous vous procuriez à l'entrée de la salle un petit casque si vous l'avez déjà fait, si vous en avez besoin. D'autre part, je voudrais juste vous dire que ça va être la première rencontre de cet après-midi, mais que pendant toute l'après-midi et toute la soirée vont suivre d'autres rencontres. Donc à 16h30, traduire les littératures de langues indiennes. Une rencontre ensuite à 18h30 avec Preta Samarasan et Kunal Basu. Et une rencontre autour de vision de l'Inde contemporaine à 20h30. Je voudrais juste dire un tout petit mot de la rencontre suivante, de la rencontre de 16h30, puisqu'elle sera animée par Dominique Vitalios. Et je voudrais tout de suite saluer Dominique et lui rendre hommage, car elle est non seulement la traductrice des derniers livres des deux auteurs ici présents, Manil Suri et Sudhir Kakkar, mais elle est aussi probablement la personne qui fait le plus pour faire connaître la littérature indienne en France. Et à ce titre-là, elle a bien sûr joué un rôle très important dans la préparation de ces journées, mais joue un rôle d'intermédiaire extrêmement précieux et sans lequel on n'aurait pas l'occasion de découvrir ces littératures indiennes. Alors, L'Inde vue par, vous avez vu le programme, l'intitulé du programme, des écrivains, des traducteurs, des photographes, un cinéaste, le sujet extrêmement ambitieux. Je voudrais pour ma part le réduire un tout petit peu le champ cet après-midi et avoir le point de vue de deux auteurs, donc Sudhir Kakkar et Manil Suri, qui sont deux auteurs connus du public français. Sudhir Kakkar vient de publier aux éditions du Seuil « Fou et divin », dans une traduction de Dominique Vitalios, mais je crois que c'est peut-être le 12e ou 13e livre, je n'ai pas fait le compte, enfin il y en a une bonne douzaine traduits en français, à la fois des romans et des essais, et donc on ne peut pas dire que ce soit un auteur tout à fait inconnu du public français. Quant à Manil Suri, depuis La mort de Vishnu, qui avait eu un très grand succès, publié aux éditions du Seuil, il a publié récemment Mother India, qui est également un roman qui a beaucoup fait parler de lui. Donc ce sont deux auteurs qui sont déjà un petit peu connus, mais je voudrais vous donner éventuellement, si vous ne les avez pas lus, l'envie de les lire, de les découvrir. Et la première chose qui me frappe, peut-être, concernant ces deux écrivains, c'est la multiplicité de leurs talents. En France, il me semble qu'on aime bien spécialiser, cloisonner un petit peu les choses. J'imagine qu'un grand scientifique qui serait en même temps un romancier, qui pratiquerait la fiction, aurait un tout petit peu de mal à être pris au sérieux dans l'un ou l'autre domaine de ses activités. Or, nous avons ici deux auteurs tout à fait brillants, dont l'un, Manil Suri, est un éminent mathématicien, et dont l'autre est un psychanalyste important et reconnu. Et le fait de mêler les deux activités, je voudrais simplement avoir votre sentiment à l'un et à l'autre. Est-ce que ça vous donne, est-ce que ce sont deux activités un peu séparées, un peu cloisonnées, ou est-ce qu'elles se nourrissent l'une de l'autre? Est-ce que, par exemple, Manil Suri, votre passion des mathématiques a quelque chose à voir avec votre travail de romancier, et réciproquement, si j'ose dire?
Let me just take this off. Je vais enlever mon casque. Pas vraiment. D'abord, j'aimerais dire que chaque pays que j'ai visité insiste qu'ils sont très fermés, que c'est impossible de bouger d'un compartiment vers un autre. Ils disent la même chose aux États-Unis. En fait, la manière dont moi j'ai commencé à écrire des romans, c'est que j'étais déjà devenu un professeur, donc professeur de mathématiques, et un jour, et de temps en temps, j'écrivais des petites histoires. Et une fois, il y a un mathématicien très célèbre qui est venu nous parler, et c'était aussi un joueur au bridge très connu. Et après la rencontre, une personne est venue me voir et me dit, mais c'était vraiment n'importe quoi, ce séminaire. Et je dis, non, votre sujet, c'est les statistiques, donc vous ne pouvez même pas comprendre ce qu'il a dit. Et il a dit, non, lui, c'est un joueur de bridge, ça veut dire qu'il passe trop de temps à jouer au bridge, donc il ne peut pas être un bon mathématicien. Après cela, je savais que si je voulais écrire, il fallait le faire en secret. Donc, je fais très attention. Je faisais partie d'un groupe d'écrivains. Je vivais à Baltimore, mais je voyageais pendant une heure et demie à Washington pour faire partie d'un groupe d'écrivains. Et au bout de beaucoup d'années passées à écrire tout seul, pour moi, c'était comme une vie secrète. Et c'était complètement séparé de ma vie de mathématiques. Donc, je ne pense pas que vous pouvez vraiment trouver les mathématiques dans mes romans. Roman. Maintenant, c'est libérateur de savoir qu'il y en a un qui est très différent de l'autre. Je ne suis pas comme des gens qui enseignent l'art d'écrire et puis qui écrivent en même temps. Pour moi, c'est bien de garder les choses séparées.
On a le sentiment que le rapport est plus étroit, dans votre cas, entre votre activité d'analyste et votre activité de romancier. Alors, comment menez-vous de front les deux activités ?
Mais je ne suis pas psychanalyste, je ne pratique pas, je veux dire, mais j'écris sur le sujet. Mais votre première question, pour répondre, je pense qu'il n'y a personne qui commence comme romancier. Tous les romanciers indiens que je connais, il y en a un qui était professeur d'anglais, donc un autre qui était économiste, un autre qui était anthropologue. Donc les gens viennent de toutes les professions et après deviennent romanciers. Donc moi, j'ai commencé très tard. Mais la différence entre les essais, donc les nouvelles, et d'autres formes, c'est vraiment des formes très différentes. Donc il y a des parties de moi-même qui sont adressées, qui sont très différentes. Et la différence, c'est que quand on écrit des nouvelles, vous essayez ou des essais, comment dire en anglais, vous essayez de convaincre les personnes. Et avec la fiction, vous essayez de séduire. Donc il y a une différence entre convaincre et séduire. Donc, si vous sentez que vous avez un don dans les deux domaines, donc convaincre et séduire, si vous voulez faire les deux, donc vous aurez beaucoup de plaisir à faire les deux, de convaincre et de séduire.
L'importance que vous accordez en tant que romancier, l'un et l'autre, à l'histoire de votre pays. Parce que je suis très frappé de voir que dans beaucoup de fiction contemporaine indienne, il y a une volonté, je ne dirais pas exactement une volonté historique, on n'est pas du tout dans le roman historique, mais il y a une volonté de prendre en compte la réalité, l'histoire de l'Inde depuis la création de la République indienne. Je suis très frappé, par exemple, de voir dans Mother India, évidemment, le titre déjà, le titre français en tout cas, parce que ça n'est pas le titre original, le titre français donne assez à penser qu'on parle d'une histoire individuelle, bien entendu, d'histoire d'un certain nombre de personnages, mais aussi de l'histoire de la République indienne et de la croissance, de la fondation, de l'évolution de ce pays. Alors, à quel point est-ce que l'histoire est importante pour vous ? Est-ce qu'en tant que romancier, vous avez toujours la volonté de parler, d'avoir cet arrière-plan historique, de parler de l'histoire de votre pays, de parler de l'évolution de cette société ?
Une partie de ce livre vient de mon histoire personnelle, c'est mon histoire familiale, personnelle, parce que mes parents était Rawalpindi, qui fait maintenant partie du Pakistan. Et en 1947, 20 jours à peu près après leur mariage, le pays a été divisé en deux. Ils ont dû tout quitter. Ils n'ont même pas ouvert leur cadeau de mariage et ils se sont sauvés à Delhi. Donc, si vous lisez l'histoire, le livre, vous voyez dedans une famille qui vit quelque chose d'assez similaire qui arrive en Inde après ce qu'on appelle la partition, donc la division du pays en Inde et en Pakistan. Donc, l'idée principale que j'avais concernait cette femme qui voyageait, qui développait, qui évoluait dans une société dominée par les hommes, ce qui était la société indienne de l'époque. Et comment est-ce qu'elle fait face à ces problèmes? Et une fois que j'ai commencé, je me suis lancée, l'histoire commence à me frapper. À l'école, l'histoire, c'était ma matière. Vraiment, je n'ai jamais eu plaisir à étudier l'histoire. Donc, ma mère, d'ailleurs, est prof d'histoire, donc automatiquement, je déteste l'histoire. Mais une fois que j'ai commencé à lire l'histoire et comprendre comment je pouvais la présenter dans le roman, j'étais très intéressée parce que pour nous, l'histoire, c'était mémoriser des choses et puis après, les sortir, c'était vraiment rébarbatif. Mais moi, ça a commencé à m'intéresser. J'ai commencé à introduire l'histoire dans ce livre à ce moment-là. Et ce livre fait partie d'une trilogie.
Donc, le right now.
C'est vraiment un cliché de l'Inde à un moment donné, il y a 10 ans. Et là, j'ai regardé la construction historique du pays qui est devenue une république. Et le prochain que je viens de terminer, c'est un petit peu après, c'est-à-dire vers l'avenir, ce qui pourrait se passer.
Votre volonté au départ était de faire en 3 volumes cette histoire de l'Inde, ces 3 points de vue différents. Alors, est-ce que le troisième, vous venez de nous dire qu'il est achevé, est-ce que c'est un projet que vous avez depuis longtemps? Voilà, comment est né ce projet de cette trilogie romanesque?
Well, the trilogy came a long time ago. I think
l'idée de la trilogie est née il y a longtemps. Une fois que j'ai terminé le premier livre, il y avait cette idée de la mort de Vishnu qui a fait partie de la trinité indienne. Donc, je pense Vishnu, Shiva et Brahma, c'est les 3 personnages. Ce sont les 3 personnages. Et j'ai vu également que je pouvais regarder ces 3 éléments, ces 3 livres, où le premier, ça se trouvait que c'était un cliché. Un peu par hasard. Et le deuxième, c'était un roman historique. Et le troisième, si je voulais faire ce cycle, devait être parler de l'avenir. Parce que dans l'hindouisme, il y a toujours ce cycle de la naissance et la renaissance. Donc je voulais quelque part suivre ce cercle. Et c'est pour ça que j'ai prendre en considération tous les 3. Donc le livre que je viens de terminer, j'ai commencé en septembre, au mois de septembre 2000. Donc j'ai mis 11 ans pour le compléter. Je les ai écrits de manière concurrente, c'était en même temps, simultanément. Et à un moment donné, ils se joignent. Mais maintenant, les romans se sont séparés. Et il m'a fallu beaucoup de temps. Et si vous pensez en arrière vers septembre 2000, le monde était très différent. C'était avant le 11 septembre, par exemple. Et les histoires qui me venaient à l'esprit sont très différentes de ce qui s'est retrouvé sous les pages.
Cette dimension historique, c'est-à-dire Kakar, est-ce que c'est très important pour vous et à la fois cette plongée dans la culture traditionnelle indienne qui est très importante dans votre travail?
Je crois que moi j'ai procédé un petit peu différemment dans le fait que tous mes écrits qui ne sont pas des écrits de romanciers ne concernent pas l'Inde. Les parents et les enfants, les mères et les pères. En ce qui concerne mes romans, je suis partie dans l'autre sens. Donc le premier, c'était l'esthétique du désir, c'était l'Inde du 3e siècle. C'était une biographie romancière comme un sutra. Et nous ne connaissons qu'une seule ligne, que dans la chasteté complète, je ne sais pas si vraiment on y croit. C'est tout ce que nous connaissons sur lui. C'était mon premier roman et j'avais peur d'être romancier, d'écrire de la fiction. Donc, parce que j'étais savant, Batsaina était savant sur la sexualité et moi j'étais un savant moderne et bien sûr intéressé par la sexualité à cause de mon travail de psychanalyste. Donc c'était un domaine qui m'était connu. Et le deuxième, c'était en Inde du 19e siècle, aussi une histoire entre Ramakrishna et Viveka. C'est aussi ça évoque mon intérêt pour le mysticisme. Et puis le troisième, c'était l'Inde de Gandhi au début du 20e siècle. Et le dernier, qui n'a pas encore été traduit, qui est le trône écarlate, c'est l'Inde du 20e siècle. Donc mes romans sont vraiment historiques. Alors que mes essais sont contemporains.
Vous avez été formé à la psychanalyse à l'Institut Freud de Francfort. Je me demande parfois, cette culture traditionnelle indienne, est-ce qu'elle a été un apport pour vos travaux psychanalytiques ou au contraire une sorte de difficulté à faire entrer toute cette diversité dans, je ne dirais pas le carcan de la psychanalyse, mais dans les cadres en tout cas très européen de la psychanalyse. Est-ce que vous avez le sentiment que la lecture psychanalytique vous a apporté une vision de l'Inde plus pertinente, ou est-ce que ça n'est pas l'inverse qui s'est produit, c'est-à-dire que vos racines indiennes et votre culture vous a permis, je ne dirais pas de renouveler la psychanalyse, mais en tout cas d'y apporter une couleur un peu différente, une tonalité un peu différente?
Oui, bien sûr. Quand j'ai commencé, mon idée était d'appliquer la psychanalyse des catégories freudiennes. Mais j'ai très vite découvert, comme vous avez dit, il y a tellement dans des situations qui résistaient l'application de ces principes et ces catégories. Donc les résultats étaient un conflit très intéressant mais créatif. C'est-à-dire que j'ai commencé à appliquer des catégories indiennes à la psychanalyse freudienne pour commencer à examiner ce qui était devant moi pour voir ce qui résiste. Et les résultats en était que le rôle de la culture dans la psychanalyse est devenu, pour moi, est devenu de plus en plus grande, à mon avis, que les aspects universels de Freud. C'est sûr que je crois qu'il y a trois universels, donc l'inconscient, pour notre comportement, c'est très fort. Les expériences au début de l'enfance et la partie érotique. Mais il n'y a que ces trois universels qui sont communs à la psychanalyse freudienne. Il y a tellement d'autres aspects où c'est la culture qui décide ce qui est mâle, ce qui est femelle, ce qui est masculin, ce qui est féminin, ce qui est sain, ce qui est la névrose, ce qui est fou, ce qui n'est pas fou. Toutes ces choses sont des conditionnés par la culture, par la bourgeoisie occidentale qui donne la base. Mais si vous, comme la base de la psychanalyse est vraiment occidentale et bourgeoise, on pense que c'est universel, mais quand on parle du mal, par exemple, on parle du mal occidental bourgeois, même par les enfants, on exclut même les femmes. Donc c'était très intéressant pour moi de commencer à relativiser la psychanalyse. Je crois que je reste psychanalyste, au fait. Je viens de regarder. Je ne suis pas rejeté par les orthodoxes, parce que les orthodoxes. Mais c'était un grand défi pour moi, y compris la relativisation de l'Inde, que pour moi, quelque chose qui pour moi était vraiment universel.
Manil Suri, votre livre le plus récent, celui qui vient d'être traduit, est intitulé Mother India, même si ce n'est pas le titre original, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y est question d'une histoire racontée du point de vue d'une femme, et la vision féminine est particulièrement importante. Alors, qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé dans cette approche? Est-ce qu'il y a une spécificité? Alors, on sait que la condition de la femme n'est pas la même que la condition de l'homme, et c'est vrai non seulement en Inde, mais un petit peu partout dans le monde. Mais est-ce qu'il y a une approche plus particulière, plus intéressante de la société indienne à travers la vision d'une femme? Il faut, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, on peut tout de même en dire deux mots. Il s'agit d'une jeune femme qui tombe amoureuse d'un jeune chanteur au cours d'une sorte de concours où il se produit et qui se passe d'ailleurs 5 ans après la création de la République indienne. On est dans le contexte historique très précis. Sa sœur aînée est amoureuse de ce jeune homme et il y a une sorte de rivalité entre les deux sœurs qui fait que c'est la plus jeune sœur en quelque sorte qui va emporter la décision et qui va épouser ce charmant jeune homme promis à un bel avenir de chanteur à Bollywood. Le problème c'est que elle vient de faire une mésalliance, ils ne sont pas du tout de la même catégorie sociale et elle va être confrontée à une situation qu'elle n'avait pas tout à fait prévu, tiraillée entre la tradition familiale, l'éducation qu'elle a reçue et qui est une éducation plutôt libérale, sa nouvelle condition de femme mariée qui est tout à fait différente de ce qu'elle avait imaginé, et puis l'amour qu'elle va totalement reporter sur son fils. Voilà. Donc c'est toujours un point de vue féminin, une vision féminine de la société indienne. Alors au milieu de cela, on a évidemment les rivalités entre hindous et musulmans, on a les problèmes politiques, les problèmes sociaux de l'Inde. Mais est-ce qu'il était particulièrement important pour vous que ce soit la vision d'une femme ?
Oui, je crois que ça n'aurait pas pu marcher autrement. Et ce qui m'a influencé, c'était ma mère, elle était féministe comme elle pouvait, mais même des personnes comme elle, très indépendantes d'esprit, je voyais que leurs interactions avec leur mari, par exemple, ma mère ne n'adressait jamais mon père par son prénom. Lui, il pouvait. Mais il y a une espèce d'hiérarchie qui est intégrée, en fait, qu'il était à l'époque, plutôt. Et ce que je pouvais démontrer par ce livre, c'était cette idée de cette femme qui représente les nouvelles idées en Inde, ou si vous voulez l'appeler comme ça, vous pouvez dire que c'est la naissance du féminisme, d'une certaine manière. Mais ce que je voulais éviter, c'est une idée d'une femme très héroïque. Donc si vous lisez Mira, qui est l'héroïne, c'est parfois, elle est énervante. Ce n'est pas un être humain parfait. Souvent, dans ce genre de roman, l'héroïne va vaincre dans toutes ces épreuves et triompher à la fin. Mais ici, c'est beaucoup plus nuancé. Et peut-être que vous pourrez, en lisant le livre, être d'accord avec ces décisions ou pas. Parce que je ne pense pas que les mouvements sociaux sont vraiment fluides. Je voulais montrer son histoire personnelle. Elle est tout le temps en révolte. Elle est entourée de la puissance masculine, son époux, son père. Elle est obligée de se révolter. Elle fait même des choses qui sont contre son intérêt propre, juste pour que sa voix soit entendue. Donc voilà une des raisons pour que c'était nécessaire que l'héroïne soit vraiment une femme.
Suzir Kakar, vous êtes beaucoup intéressé à la culture, à l'histoire, à la mythologie indienne. Vous avez écrit sur le Kama Sutra, un roman d'ailleurs, et non pas un essai, sur le Bhagavad Gita. Est-ce que toute cette culture est très importante, je ne dirais pas pour le psychanalyste, mais pour le romancier, parce qu'on sait combien la psychanalyse s'appuie évidemment sur la mythologie. Dans le cas de la psychanalyse freudienne, c'est assez évident. Mais pour le romancier, je voudrais avoir cette fois la réponse du romancier. Qu'est-ce que ça vous apporte, ce fond culturel sur lequel vous vous appuyez, non pas en tant qu'analyste, mais en tant que romancier ?
Le fond culturel est aussi pour mes livres qui ne sont pas de la fiction très important. La fiction, c'est un moyen d'explorer la culture, du point de vue du patrimoine, l'héritage. En parlant des siècles très tôt, la mythologie est très intéressante, vous avez raison, pour la psychanalyse. La psychanalyse épouse beaucoup de mythologies, donc grecque, Oedipe et tout ça. Donc ma question, c'est comment est-ce que la mythologie indienne peut contribuer à la psychanalyse? Là, tout à l'heure, on parlait de la mère, et puis la mythologie de la mère est beaucoup plus forte en âme qu'en grec. Je pense qu'il y a beaucoup d'apports que la mythologie indienne pourrait donner à la psychanalyse, parce que ma vision, c'est d'une psychologie basée sur la psychanalyse beaucoup plus universelle, qui prend beaucoup plus des culturels, qui se débarrasse de certains aspects de la culture européenne qui ne sont pas universels et qui ne sont pas nécessaires. Et je pense que si on agit de la sorte, ça peut contrecarrer et arrêter la baisse d'importance de la psychanalyse actuelle, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'avenir pour la psychanalyse, beaucoup plus que ce qui se passe en ce moment. En termes il y a beaucoup de collègues européens qui sont tristes, mais ce n'est pas nécessaire.
L'analyse de ma question, mais on est frappé, en tant que lecteur français, on est frappé par le plaisir narratif des romanciers indiens. Je dirais presque que Sujir Kakar fait presque exception avec un livre relativement petit, mais il s'agit d'un recueil d'articles là qui est un peu particulier. Généralement, il y a une jubilation de la narration qu'on a un petit peu perdu peut-être en France, dans les pays européens. On a souvent reproché, ça n'est pas le lieu de faire un vaste débat sur cette question, mais on a souvent reproché aux romanciers français d'être un peu minimaliste, de refuser un peu la narration. Or, vous, ça n'est pas du tout un problème qui vous dérange. Vous avez un plaisir. Alors là, on a par exemple un très gros livre qui n'est qu'un volume d'une trilogie, et on raconte avec beaucoup de plaisir des histoires. Comment vous situez-vous par rapport à la narration? Il n'y a jamais eu une sorte d'interdit. Il y a au contraire un grand plaisir, une grande jubilation à raconter des histoires.
Oui, je crois que pendant que j'écrivais ce livre, et certainement le livre que j'ai écrit pendant 11 ans, j'ai découvert pendant ces 11 ans que écrire une intrigue, c'est beaucoup plus difficile. Le fil conducteur de l'histoire, c'est la chose la plus difficile, plus difficile que les personnages, par exemple, et pour les autres romanciers aussi. Donc, je tire mon chapeau à tous ceux qui écrivent ces films avec le fil conducteur tout fait. C'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais. Je pense que n'importe qui pouvait le faire, mais ce n'est pas vrai. Et je pense que c'est l'une des raisons. Mais je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que les gens réagissent bien quand il y a un fil conducteur très fort, une histoire très forte. Et en tant que romanciers, nous avons tous nos motivations, les choses que nous voulons dire, et j'aime les mettre quelque part en sous-jacence. Peut-être c'est un livre qui concerne une femme, qui raconte l'histoire d'une femme qui est très impliquée dans sa vie avec son enfant. Mais si vous regardez par-dessous la surface, là, juste en dessous, il y a beaucoup de viande, beaucoup d'idées fortes. Et c'est ce que j'aime faire, c'est d'avoir un fil conducteur très fort. Et après, vous pouvez peut-être découvrir des petits dedans. Et ça dépend aussi de votre connaissance de l'Inde.
Oui,
je crois que
India is a land of stories.
L'Inde, c'est un pays d'histoire, de contes. C'est vraiment le pays de l'origine des contes. En Inde, c'était le cas, et c'est peut-être c'est encore le cas, que si quelqu'un veut
prendre
un argument, il dit, je vais commencer en vous racontant une histoire. Donc tout le monde souligne ses idées en racontant des histoires. Donc moralité est apprise par l'histoire, vos idéaux sont enseignés par des histoires. Donc moi j'ai commencé à écouter des histoires à 3-4 ans. C'est mes grandes-mères, mes tantes qui me racontaient des histoires. Donc on raconte des histoires et on écoute des histoires. Et ça fait partie fondamentale de la culture indienne. Ça fait partie de notre identité indienne. Et bien sûr, on sait que il y a des expériences merveilleuses. C'est-à-dire que vous posez la question à une personne, allez voir un médecin si vous voulez. Il y a un accident et puis il écrit l'ordonnance. Et puis il y a une autre personne qui va chez le médecin et le médecin raconte une histoire. Le père est tombé et puis après il écrit l'ordonnance. Et après 3 semaines, celui qui a reçu l'histoire se souvient de l'ordonnance. Mais l'autre qui a juste reçu l'ordonnance, il a complètement oublié. Donc il y a des avocats devant des jurés qui racontent des histoires magnifiques, gagnent leur procès beaucoup plus que les avocats qui présentent simplement les faits. Donc je peux vous dire que le fait de raconter des histoires, c'est ancré en moi et en nous. Et l'Inde, c'est le pays des conteurs. Il y a tellement de contes, tellement d'histoires depuis la naissance. C'est l'océan de sagas. C'est le titre d'un des romans. Et nous sommes comme des poissons dans cet océan qui absorbe l'importance de l'histoire.
Est-ce qu'il y a, je ne dirais pas des écoles, mais vous vivez, les uns et les autres, vous vivez aux États-Unis, Manil Suri, vous avez vécu en Europe, en Inde. Est-ce qu'il y a, je ne dirais pas, des courants littéraires, des écoles ou des auteurs dont vous vous sentez proche, ou est-ce que, comme on a un petit peu le sentiment, chacun suit un chemin un petit peu individuel sans qu'il y ait véritablement de mouvement littéraire global, disons?
I guess I'll interpret that question as, you know, how much I feel a part of maybe an Indian movement in literature.
Est-ce que je suis un mouvement de littérature indien ou un autre?
We had a session yesterday where
hier, nous avons
one
eu
of the
pendant
things
notre session,
that was clear was that
nous avons parlé de différentes choses. Une chose qui était claire, c'est que beaucoup de personnes qui ont de l'attention de la part de l'Occident
languages.
Sont ceux qui écrivent en anglais plutôt que des langues locales. Il y a en Inde différents mouvements de littérature, mais ils ne sont pas tous communiqués à l'Occident. Moi-même, est-ce que je me sens part d'un de ces mouvements? Je dirais que l'Inde est tellement diverse qu'il y a toujours des différentes personnes qui font différentes choses.
Not being from a writing field,
et
I don't think I came to it the same way as some other people might. I have a friend, for instance, who always wanted to be a writer, and he's become a writer, and he really feels grounded in that.
I feel that I'm sort of half and half, so
anytime I become too writerly, I remind myself
à la littérature, je me sens souvent comme un mathématicien autant qu'un écrivain. Et je n'aime pas trop me prendre au sérieux. En fait, je pense que si je me prends trop au sérieux en tant qu'auteur, je vais commencer à me donner trop d'importance, à faire des déclarations sur l'Inde, sur l'avenir, et je préfère prendre du recul par rapport à cela. C'est assez dangereux, je dirais, de se sentir dans un mouvement et inspiré par un mouvement particulier.
Vous n'allez pas changer, vous n'allez pas prendre une décision et choisir entre les mathématiques et la littérature. Vous allez continuer à mener les deux de front, j'espère.
Well, I actually thought after the first book came out, it did very well. So everyone said, are you leaving your job as a mathematician, but when are you leaving it? Why haven't you left it? And there was a lot of pressure. And I somehow stuck on.
Je me suis posé beaucoup de questions.
It's not very hard to do both in the sense of time.
Ce n'est pas difficile de faire les deux activités.
I actually took a year or two off, and I did an experiment. I took a year or two off, and I counted the amount that I'd written then compared to when I'm actually teaching and writing at the same time.
J'ai comparé le temps passé à travailler entre l'enseignement et l'écriture, et c'était la même chose, la même quantité de temps.
But it'll make me
J'étais
more crazy
aussi productif dans les
as a writer, I don't know how writers do it.
Mais
they
je vais devenir peut-être fou
and, you know, at the end of the day, maybe they've written a paragraph and the next day they delete it and write it again.
Je ne sais pas comment font les autres écrivains, mais bon, moi j'écris peut-être un jour un paragraphe, le lendemain
the number of words per
je le supprime.
This book took me 7 years to write,
j'ai compté le nombre de jours que j'écris par jour. Ce livre m'a pris 7 ans à écrire. Et j'ai compté le nombre de mots que j'écrivais par jour. Et qui
actually,
sont publiés au final. Et c'était seulement 62 mots par jour.
So.
Et moi, si j'écris 3 mots par jour,
on sent le mathématicien, la précision extrême.
Je vais écrire un livre en entier.
Kakar, est-ce que vous vous sentez proche, appartenant à un mouvement? Vous êtes tellement singulier, votre parcours est tellement singulier que j'imagine qu'il y a peu d'auteurs, peut-être, dont vous vous sentez proche, ou vous n'avez pas le sentiment d'appartenir à une sorte de mouvement, mais est-ce le cas?
I don't think I belong to any movement.
Je ne pense pas que j'appartiens à un mouvement littéraire.
Ask any Indian writer, si on demande à nobody will say I belong to any movement. They're also individualistic.
Écrivain indien, je ne pense pas
I'm part of a movement.
Appartient ou qui pense qu'il appartient à un mouvement littéraire.
So,
peut-être que j'appartiens à un mouvement, mais je ne le sais pas.
Know, not, but it might be one. I'll hate it if that was so.
Je n'aimerais pas trop appartenir à un mouvement littéraire et ne pas le savoir, par contre.
Part of the non-Indian resident movement,
nous faisons
right?
partie des écrivains indiens qui n'habitent pas en Inde.
Vous parliez tout à l'heure, Manil Suri, vous parliez de cette trilogie. C'est un projet qui vous occupe depuis très longtemps. Vous avez parlé du temps, des longues années qu'il vous a fallu pour venir à bout de ce projet. Est-ce que comment travaillez-vous? Ça veut dire que vous venez de terminer le troisième volume. Vous avez une autre idée, un autre projet, peut-être pas d'un vaste cycle romanesque, mais quels sont vos projets d'écriture en ce moment?
I actually have a couple of things, but I mean, I'm very optimistic when I said I finished it. I finished the first draft, so I still have editing to do.
Je parais sûrement optimiste en disant que j'ai fini ma
trilogie. But this book was very difficult, the one that I just finished. And there were two times that I tried to give it up.
En fait, il y a deux fois où j'ai failli ne pas finir.
One day I actually sat down and made a long list of all the ways that the story could progress.
And I thought I was doing it very mathematically, doing a progression pour mon histoire, and this character does this, and all of them ended with an XXXX. This is not possible.
So I thought I'd prove that this book cannot be done.
And je supprimais tout ce qui ne me plaisait pas. J'ai eu du mal en fait à finir le troisième livre. Le nouveau livre, j'ai eu une idée là-dessus. Et il est en suspens en ce moment. Et j'ai aussi déjà commencé autre chose sur le mot M. M pour mathématiques. C'est pour les personnes qui ne pratiquent pas la mathématique. Et je ne devrais peut-être pas dire que ça va être sur les mathématiques parce que cela va vous faire peur. Beaucoup de gens ont peur des mathématiques. Mais j'aimerais vous préciser, ça ne sera pas sur les calculs. C'est plutôt sur les idées que nous avons en mathématiques. Comment nous pouvons appliquer ces idées à notre vie quotidienne, comment les utiliser dans d'autres matières. Peut-être pour enlever le mystère, tout le mystère autour des maths.
Ça permet d'être d'autant plus intéressant que les grands amateurs de littérature ne sont pas toujours des grands mathématiciens. En tout cas, il y a quelquefois un petit hiatus entre les deux. Ça promet. Sizir Kakar, quels sont vos projets actuellement? À quoi travaillez-vous?
My last novel came out in 2010.
Mon dernier roman a été publié en 2010.
And then 2011,
my memoir
came out. A book
mon mémoire a été. Mes mémoires ont été publiées.
So one of my friends said,
Et un de mes amis m'a dit, tu es vieux, maintenant tu devrais peut-être penser à fonder une famille. Je vais peut-être attendre un petit peu.
Ce que je fais maintenant,
c'est éviter d'écrire. Je sens que c'est quelque chose qui m'attire, mais j'ai eu aussi des invitations pour voyager, pour sortir, pour faire des choses, donc je n'ai pas besoin d'écrire maintenant.
Alors, pardonnez-moi une question qui relève probablement des clichés que l'on peut avoir sur l'Inde. Mais quand on pense à l'Inde, d'ailleurs le petit programme ici dit l'Inde vue par des écrivains, des traducteurs, des photographes, un cinéaste, on pense bien sûr au cinéma, on pense à Bollywood, à l'énorme production de films indiens. Il en est un petit peu question ici, en particulier dans Mother India, puisque le jeune homme est un aspirant chanteur qui rêve d'une carrière à Bollywood, comme beaucoup de jeunes indiens probablement, mais est-ce que le cinéma joue un rôle particulièrement important, y compris dans votre écriture? Parce que je parlais tout à l'heure de ces vastes épopées, de ce plaisir narratif, on a le sentiment que vous êtes quelquefois autant sensible au cinéma qu'à la littérature. Est-ce que pour vous, la présence de ce formidable cinéma indien a été un moteur et quelque chose qui joue un rôle dans votre écriture?
Yeah, it does. When I was growing up in the 60s and
70s,
Indian cinema, Bollywood in particular,
indien et Bollywood en particulier,
was the one common thread.
C'était vraiment le fil rouge. Tout le monde a été lié par ces histoires au cinéma et Bollywood.
Bollywood films,
tout le monde a vu les films de Bollywood, tout le monde connaît les stars du cinéma. Même un mendiant dans la rue connaît les noms des acteurs dans les films de Bollywood. C'était un fil rouge dans mon enfance et ma jeunesse. Maintenant, c'est toujours un lien dans la société. Il y a bien sûr plus de sources. Il y a la télévision, le cinéma, etc. Il y a plus de films. À cette époque-là, par contre, il n'y avait que ces films de Bollywood.
Mon père,
lui, a créé des musiques pour les films de Bollywood. Donc, dès le début, j'ai été vraiment plongé dans ce milieu. Ça fait partie de moi. Vous pourriez presque dire que je suis obsédée, ou j'étais obsédée à ce moment-là par
Bollywood.
Parce que j'avais des posters d'acteurs de Bollywood partout dans ma chambre, et cela énervait mon père. Et il enlevait les posters, il enlevait même toute la peinture avec de mes murs. Mais avant de devenir écrivain, c'était une grosse influence dans ma vie. Le premier livre que j'ai écrit,
one of the characters, when he passes away,
contient un personnage qui, quand il décède, s'intègre dans l'écran et passe dans un film. Et vous pouvez voir donc comme Bollywood est important dans ma vie et dans la vie en Inde. C'est lié aussi à l'hindouisme, à l'illusion, les illusions que nous voyons dans les films. Pour moi, c'est quelque chose qui devait apparaître dans mes livres.
Cinema doesn't play any writing in my fiction since it
le
is all historical fiction when cinema was not there.
Inclus dans But mon course, travail scientifique bien sûr in, parce que I c'est talk, imaginaire.
My memoir a lot about
Mais
cinema
dans mes mémoires, je parle beaucoup du cinéma.
I grew up in Lahore.
Parce que j'ai grandi à Lahore.
My grand uncle had a cinema house.
Mon grand-oncle tenait un cinéma.
There was a common
J'habitais juste à côté et il
so
y avait une fenêtre
on the ceiling. I could always
commune.
Open the window and look
Donc
into
je pouvais même voir les films de chez moi.
And then I made friends with the
je
man
suis
who did the admissions.
Ensuite devenu ami avec la personne à l'entrée. Et donc l'après-midi, tout le monde faisait la sieste et moi j'allais voir un film.
Kadambri, 17 times.
Et j'ai vu un film sûrement 17 fois. Un autre film, je l'ai vu 14 fois. J'étais vraiment amoureux du cinéma indien. J'ai commencé cette histoire d'amour à 5 ou 6 ans.
I think that was really the first
essay j'ai écrit, je crois, mon appreciating
essay. Bollywood cinema to the horror of all the intellectuals and friends of that time who completely looked down upon Bollywood.
L'horreur cinéma, que je ressentais envers les scientifiques qui détestaient le cinéma d'Hollywood. Ils disaient ce n'est pas du cinéma italien ou français, ceci n'est pas quelque chose d'abouti.
Et ils disaient que c'était une collection de fantasmes really
et que c'est le public qui crée le cinéma indien, et non pas les réalisateurs. Ils donnent seulement au public ce qu'ils veulent voir.
Yes, but in my fiction, no.
Donc dans mes romans, oui, je parle du cinéma.
On reparlera de cinéma tout à l'heure, mais peut-être avez-vous des questions que vous aimeriez poser à nos auteurs. Alors je ne sais pas comment on peut procéder, on fait passer peut-être on fait circuler un micro, parfait. Si vous voulez réagir à des propos qu'ils ont tenus ou aborder des questions qui n'ont pas été abordées, évidemment, il y en a certainement beaucoup. En une heure, on n'a pas fait le tour de la question. Alors, qui se lance ? Oui, madame, si vous voulez bien.
Vous avez dit que vous
n'appartenez pas à une école ou un mouvement.
In one way, I completely agree with you. I'm a translator.
Je suis d'accord avec vous. Je suis traductrice de langue indienne vers le français.
You don't belong to an Indian literary movement,
vous n'appartenez pas à un mouvement littéraire indien, parce que vous écrivez dans une autre langue que la vôtre et vous parlez souvent d'un autre endroit.
You don't belong either.
Mais aussi, vous n'appartenez pas au mouvement littéraire anglais. On dirait que les écrivains indiens en anglais qui écrivent en anglais ont peu de liens avec les autres mouvements littéraires, qu'ils soient en anglais ou qu'ils soient en Inde, c'est vrai.
I look very much upon myself. I'll let Manil speak for himself.
Manil pourrait dire ce qu'il en ressent, mais moi-même, je me sens comme écrivain indien. Parce que l'anglais, en fait, l'anglais en Inde n'est plus vraiment la langue de l'Angleterre. L'anglais en Inde, ce n'est pas une langue étrangère. Cela fait partie des autres langues. Lorsqu'on parle des autres langues, le malayalam n'a rien à voir avec le Punjabi.
So when we talk
les langues
about Indian
indiennes
writing
entre
English,
elles, non, on peut
Indian
en
writings, then English is very much also
les écrivains
Indian
indiens qui écrivent en anglais sentent qu'ils écrivent vraiment en anglais indien. Si vous êtes allé en Inde, vous avez sûrement vu la quantité d'anglais que nous avons partout. C'est une des raisons, je pense, pour laquelle la littérature, la raison pour laquelle l'Inde a beaucoup de succès, que ce soit en littérature ou en économie ou dans sa puissance, c'est qu'elle se développe à cette vitesse. Peut-être que l'anglais ne s'adresse pas à tout le monde, mais il n'y a aucune langue qui peut s'adresser vraiment à tout le monde. Si j'écrivais en une langue indienne, je resterais à mon travail ou mon public à cet état ou à cette région. Après, est-ce que je suis un écrivain anglais ou je ne suis pas un écrivain anglais? Je pense que chaque auteur a son identité. Et ce dont il est question, c'est de ce qu'il a écrit, pas de son mouvement. Moi, j'étais mathématicien pendant 28 ans. Je ne réfléchissais pas au fait est-ce que je suis un mathématicien indien ou un mathématicien étranger. J'appartiens aux deux, vraiment.
On reverra ces questions plus précisément, d'ailleurs, de toute façon, tout à l'heure, à propos de la traduction de littérature indienne au cours de la table ronde suivante. Une autre remarque, une autre question ? Oui, madame ? Excusez-moi, le micro va vous revenir. Quelqu'un a levé la main au fond de la salle. Pardonnez-moi.
This is a question for Sudhir.
J'ai une question pour Sudhir. Vous avez parlé de la psychanalyse indonisée, d'amener la mythologie indienne dans la psychanalyse pour la rendre plus universelle. Je pensais à cette image de la culture indienne intégrée par la psychanalyse. Qu'est-ce que cela va donner à la psychanalyse ? si la psychanalyse est moins européenne, si la culture indienne est intégrée à la psychanalyse, quel sera le changement? Est-ce qu'on devrait l'appeler autrement? Non, je pense que ça restera la psychanalyse, mais ça deviendra la psychanalyse liée, connectée à des notions qui sont moins occidentales, qui auparavant étaient considérées comme universelles. Cela va rester la psychanalyse, comme je vous l'ai dit. Les trois parties principales de la psychanalyse sont l'inconscient, l'importance de la conscience dans nos actions. Et Freud en avait parlé, d'autant plus important maintenant. Les expériences de notre enfance motivent aussi nos actions, notre comportement. Ceci, c'est vraiment quelque chose de, une base de la psychanalyse. Ensuite, les relations dynamiques entre le conscient et l'inconscient. Je pense que ces trois éléments sont très importants. La sexualité est aussi liée, connectée à notre vie. Celles-ci sont les bases de la psychanalyse et nous pouvons de là aller dans différentes directions dans nos analyses.
The extremes of those
la culture indienne,
in
je pense, peut s'intégrer.
Not only trade a very well-worn path, but other pathways also will be, I think, illuminated.
Aux différentes parties.
That. I hope.
De la psychanalyse, j'espère, cela va éclairer plusieurs
questions
parties de
ici
la psychanalyse.
Au premier rang. Il y a encore. Excusez-moi, il y a encore décidément, je ne veux pas vous brimer, mais il y a encore quelqu'un d'autre à le micro.
Non, ça va être très bref, c'est juste un petit commentaire sur le titre Mother India en français.
Oui.
L'éditrice qui l'a choisi, parce que le titre appartient au choix de l'éditeur, l'éditrice qui l'a choisi l'a fait précisément en référence au cinéma indien, parce que c'est un grand film qui est tout très très bien connu en Inde. Et très lyrique sur une femme qui se sacrifie, sur Mother India dans toute sa symbolique. Et donc c'est pour ça, et en hommage bien sûr au personnage de mère dans ce film qui est tellement central.
Voilà. Non, mais c'était pas du tout. Quand je disais que ça n'était pas le titre original, ça n'était pas un reproche, bien entendu. Parce
non,
que
pas du tout. C'était pour compléter
pertinent.
Ce que tu voilà. disais sur l'histoire.
Le titre original
juste,
étant l'âge de Shiva. Enfin, voilà. C'est ce qui serait traduit par l'âge de Shiva. Madame, au premier rang, avait demandé la parole. Merci, Dominique.
Yes, well, both of you are great Indian authors.
Tous les deux, vous êtes de grands auteurs indiens nés en Inde. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez beaucoup lu, je suis sûre. Peut-être la littérature française, la littérature anglaise, etc. J'ai beaucoup d'admiration pour certains auteurs et les auteurs français. Pourriez-vous me dire si
Alors,
vous avez de l'admiration pour les auteurs français?
Yes, of course. I mean,
oui, bien
great
sûr.
Admiration for lots of European
beaucoup d'admiration
authors, not only French and British.
Pas seulement
French,
les auteurs français et anglais, mais
aussi
d'autres pays. J'ai lu les journaux d'André Gide, j'ai lu Camus, j'ai lu les classiques.
Essays which I like, so Montaigne,
et j'ai beaucoup aimé certains essais aussi de Montaigne.
So all kind of, coming up to the
Il y a toutes sortes d'écrits.
No longer that modern Duras, modern, and even
Marguerite Duras.
Even now the, it was so difficult to pronounce.
Et le nom qui est très difficile à prononcer.
Okay, difficult to pronounce. who I thoroughly enjoy. I mean, I can keep on giving
Il y a
you
énormément
names,
d'auteurs français que je lis. Je peux vous donner toute la liste des auteurs européens que je lis, mais ça serait trop long. J'ai beaucoup de plaisir à les lire.
J'ai beaucoup de plaisir à lire
les créations d'autres.
Yeah.
Pas seulement les lire, mais je les apprécie aussi énormément.
Very well read in anything. So,
moi,
if
je
you ask
ne
me,
lis
you know,
pas énormément de choses. Je veux dire, même
who
en mathématiques, j'ai des collègues
books,
qui ont lu tous les classiques des mathématiques,
so,
des mathématiques et moi non.
Like
Donc, je vais peut-être éviter une question comme celle-ci, d'habitude.
The only French authors that I've read recently,
les auteurs français que j'ai lus récemment,
Houellebecq,
oui, son premier
les
livre, je l'ai lu.
The first book that he wrote.
C'est plus le titre, son premier roman.
Michel Houellebecq.
Le premier roman de Michel Houellebecq, comment s'appelle-t-il?
Les particuliers élémentaires.
Celui-ci, je n'ai pas tellement aimé.
Puis récemment,
L'Empire des fourmis. J'ai lu celui-ci.
Then I read something called The Parrot's Theorem.
Après, j'ai lu le sérum du perroquet.
It was about mathematics. And it's about this parrot who kind of talks
cela
about mathematics theorems. And it's,
it
was some mystery in there too. And apparently it's all
et il y a
a lot
tout un
in your country,
des mathématiques.
So I read that, and then I read,
ça a eu apparemment beaucoup de succès en France, donc c'est bon à savoir. Et il y en a un autre que j'ai lu, comment il s'appelle?
Person who lives in a
à propos de cette personne qui habite dans
there's a Japanese
un bâtiment, il y a un homme japonais, elle tombe amoureuse.
Ils sont très ignorants de la littérature française, pour la plupart. Oui, Suzy.
Just to add to it.
Je voudrais juste
ajouter,
cela vient peut-être aussi de la situation en Inde.
Colonial heritage,
il y a eu bien sûr tout l'héritage du temps des colonies.
We started schools and then
nous avons commencé notre enseignement, notre école, dans un autre système, un système anglais. En fait, nous avons été, nous avons vu la littérature européenne, anglaise, française très tôt. Beaucoup d'entre nous,
Des occidentalistes.
Alors qu'ici, les personnes intéressées par l'Orient sont bien moins nombreuses. Je pense que c'est un grand désavantage pour vous, les Français, que vous ne connaissez pas autant sur nous que nous, nous connaissons sur vous.
J'aimerais
juste ajouter une chose à cela. Mon enseignement, l'école, pendant les années 60-70, était très centré sur l'Angleterre. J'ai lu Shakespeare à l'école. Donc, je n'ai pas vraiment appris sur les auteurs indiens, malheureusement. Est-ce que vous avez lu les mathématiciens indiens?
The classic is the father
le classique,
who starts
c'est
teaching
le père
mathematics
qui enseigne
daughter.
Les mathématiques
so
à sa fille.
Story, because, as I said,
voilà
l'histoire. In stories,
je vous ai dit, tout en Inde passe par une histoire. La philosophie,
stories,
les mathématiques,
theorems,
tout est enseigné comes, par des histoires.
Now, Bharati, now let me tell you this. Then it goes on.
Tout commence par
en tout cas,
un jour
bravo
cet homme racontait
pour
cette
être aussi bien informé sur les nouveautés de la littérature française. Vous aviez manifestement même un penchant pour Houellebecq, ça on peut vous le pardonner, mais tout de même c'est. Alors, pardon, une autre question, oui, je vous en prie. Attendez, on va vous passer le micro.
Good evening. My question would be for
Sudhir. Ma question.
As you write about sexuality.
Je vais vous demander, Sudhir Kaka, vous écrivez sur la sexualité, c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Vous écrivez des romans, vous écrivez sur l'histoire, mais j'ai une question sur le sujet de la sexualité. Quelle est la situation en Inde là-dessus? Quelle est l'attitude de la population là-dessus? D'après ce que vous avez vu, c'est difficile de dire quelle est la situation maintenant en Inde. Si on regarde les médias anglais, la sexualité est répandue partout. Tout le monde est libre.
Il
se passe beaucoup de choses.
Mais dans les sees no, it's not really true. It's still very conservative.
Nous, en Inde, nous disons d'habitude que le pays est encore très conservateur. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de sexualité en Inde. Parce qu'on n'aurions pas un milliard d'habitants sans des rapports sexuels, bien sûr. Mais ce n'est pas aussi public.
So it was cousins, aunts and nephews and uncles.
Au départ, nous parlions seulement de sexualité dans les familles.
So then it's okay.
C'était entre cousins, oncles, tantes. Nous,
as I used to say, that the difference between India and the West is that sexuality in the West is outside and aggression is inside. Here it is. In India,
nous,
it is the
disons que la sexualité en Occident est à l'extérieur et l'agression à l'intérieur du foyer.
But I think the changes are not as much. There is change,
alors qu'en
but
Inde,
not
c'est
as
l'inverse.
As the media, I think, is showing it.
And the reasons are very simple. For instance,
en fait, nous n'avons pas autant de visibilité dans les médias. Et il y a plusieurs raisons pour cela. Tout d'abord, les mariages sont toujours organisés.
And arranged marriages means the reputations of the family become very, very important.
Cela, c'est parce que la réputation de la famille est très, très importante. Si votre frère, votre
sœur
est vu par l'extérieur comme quelqu'un de sexualité assez libre, cela risque d'entacher la réputation de la famille. La réputation de la famille est protégée. Donc, les relations de la famille
ne sont pas par elles-mêmes.
Sont très protégés. Mais c'est quelque chose qui est partout dans la société. Tout le monde veut avoir des rapports sexuels. Oui, j'espère, oui.
I hope not that eternal, but yes. But at least at certain stage of life, pretty strong.
Oui, à certaines époques de la vie, c'est quelque chose de très important.
No, I think that is a wrong impression. Even if they don't now, it's much later. But even before, when they did, when the marriage took place, the consummation of marriage was after.
Quelqu'un qui se marie à 9 ans, c'est quelque chose d'aberrant.
The girl waited 3, 4, 5 years when she first became, if she started her periods, etc. So it is not that the sexual part
non,
of the marriage
ce n'est pas si simple. Bien sûr, il n'y avait pas la partie sexuelle du mariage à 9 ans.
Course, no country can do that.
Une jeune fille n'a pas de relation jusqu'à ses règles, par exemple. C'est un peu plus compliqué que cela. Mon oncle, je crois qu'il s'est marié à 16 ans et sa femme avait quelques années de moins. Mais c'était en 1910, il y a 100 ans. Tout a changé depuis.
Une autre remarque, une autre question ?
Nous ne voyons pas les changements en Inde, en tout cas de France. Moi, je suis traducteur, j'étudie la linguistique, je traduis surtout pour l'audiovisuel, des films indiens aussi. Mon sujet d'études a été la tension entre la traduction d'un commentaire, par exemple un journaliste français allant en Inde à Calcutta qui filme, qui revient, qui donne le rush au traducteur. Le traducteur doit traduire, puis donner sa traduction à l'éditeur. Et j'étudiais les changements entre les différentes versions. C'était mon sujet de recherche. Malheureusement, j'ai eu du mal à trouver des rushs, des documents originaux, que ce soit en archives françaises ou en Inde. Donc pendant les dernières 4 ou 5 décennies, je dirais, la France a montré des images horribles de l'Inde. Nous avons des préjugés. Lorsque vous avez parlé de cette fille de 9 ans qui se marie, peut-être que ça se passe ou peut-être pas. Je dirais que l'image que nous avons de l'Inde est assez crue. On ne voyait pas vraiment les images neuves contemporaines. Je ne sais pas, vous, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous en pensez?
Oui,
c'est pourquoi nous sommes là. Nous faisons partie de ce mouvement pour montrer de nouvelles images. Je vois que peu d'images. Oui, mais c'est disponible. C'est tout ce que vous pouvez faire. Moi, je peux faire une exposition sur les mathématiques et les gens viennent ou ne viennent pas. Mais il faut tout rendre disponible. Ça dépend de ce qui est disponible. Et c'est bien que nous ayons ces choses qui sont disponibles.
Non, vous voulez pas d'autres. Oui, pardon, vous vouliez poser une question.
Oui, c'est juste une curiosité que vous avez choisi Freud pour les références sur psychoanalyse. Et je suis américaine et là-bas, on a tendance plutôt de regarder Carl Jung, Alan Watts et Eric Fromm. Et tous les trois ont une référence très forte de l'Inde. Et Freud n'a pas vraiment cherché d'étudier la spiritualité de l'Inde. Donc, I'll ask you in English. Why did you select Freud?
Donc, elle répète la question en anglais. Pourquoi ils ont choisi Freud comme il a choisi Freud comme sa référence pour ses études psychologiques de psychologie plutôt que Fromm ou Jung? Parce que les trois, parce que eux, ils ont regardé vers l'Inde pour leur inspiration, alors que c'est pas forcément le cas pour Freud.
Difficult to answer.
C'est difficile de donner une réponse. La première chose que j'ai lue sur la psychologie quand j'avais 17 ans, c'est l'interprétation de Freud des rêves. Et ça m'a tellement enthousiasmé. Et en fait, c'est ce que vous lisez, ce que vous découvrez en premier qui détermine vos choix. Je ne parle pas.
Jung,
par exemple, c'est Jung qui est la contrepartie du travail de Freud. Donc Jung, je peux le dire autrement, il y a longtemps, j'ai écrit un livre sur Shaman's Mistakes and Doctors. Donc c'est des erreurs célèbres. Et quand je leur parlais, tout le monde voulait parler de Freud et discuter sur Freud. Quand je parlais de Jung, ils disaient oui, on sait tout sur Jung, on préfère parler sur Freud. Jung, c'est pas intéressant. Ce qui les intéressait, c'était Freud. Mais une des raisons pour lesquelles Freud était intéressant, c'est parce que le discours indien, le discours intellectuel était toujours élevé vers l'esprit, mais pas vers la terre. Et Freud était très fondé dans la terre, et ça m'a intéressé. Très terre à terre. Mais votre question, les autres faisaient partie de leur époque. Et ils avaient une attitude coloniale vis-à-vis de l'Inde. Freud a écrit à Romain Rolland quand il a envoyé sa biographie de Yamakrishna. Et il a répondu en disant, maintenant avec votre aide, je vais essayer de comprendre cette jungle de l'Inde. Parce que ma mentalité juive et hellénique m'a gardé à part. Ça m'a effrayé. Il y avait trop de désordre en Inde, les choses indiennes, il y a trop de désordre. Donc il a quelque part mépris l'Inde, Freud. Jung a admiré l'Inde après l'avoir visité. Après, il est tombé malade avec la dysenterie. Après cela, il a écrit évidemment des lettres assez négatives. On lui a demandé de rencontrer Ramana Maharshi. Il a dit non, j'ai mal au ventre. Et même s'il y avait 1000 Maharshi les uns sur les autres, j'aurais même pas regardé dans leur direction. Donc c'était pas. Donc les deux, autant Jung et Freud. Parfois, Freud, c'était complètement. Non, ça me désintéresse complètement. Jung admirait certaines choses, la qualité primitive de l'Inde, c'était ses mots propres. Ils sont beaucoup plus proches de la nature, donc il a un petit peu avait une attitude romantique sur l'Inde. Mais ce n'était pas vraiment un regard sur les Indiens tels qu'ils étaient. Mais quand il les a vus, il dit « Oh là là, ça sent mauvais, mon ventre ne supporte pas ». J'ai écrit un article qui les rencontres psychologiques Freud et Jung en Inde, si vous voulez les lire.
Vous avez, comme vous le faisiez remarquer, madame, tout à l'heure, vous avez vécu loin de l'Inde. Très souvent, vous enseignez les mathématiques aux États-Unis. Vous avez été formé à la psychanalyse à Francfort. Est-ce que cet éloignement temporaire ou plus durable a changé vos rapports avec l'Inde? Car quand on vous lit, on a le sentiment d'une empathie extraordinaire avec ce pays que vous n'auriez peut-être pas au même titre si vous y viviez. Est-ce que l'éloignement vous a donné, je ne sais pas, une forme de nostalgie ou a renforcé votre amour de l'Inde?
Je pense qu'on a parlé de ça beaucoup hier. Donc je pense que la plupart de ceux qui sont là étaient là aussi hier. Donc je ne vais pas trop répéter. Est-ce qu'il y a des gens qui n'étaient pas là hier?
Ah oui,
il y en a beaucoup. Donc d'accord, nous allons répondre.
it's an interesting question.
C'est une question très intéressante.
I think anytime
et je pense que n'importe quel moment où vous vous éloignez de l'endroit donné, vous pouvez penser à certaines parties que vous ne pouvez pas regarder, des aspects que vous ne pouvez pas voir quand vous êtes dedans. Par exemple, quelqu'un qui se trouve dans un globe, et si vous partez, vous voyez tout comme une planète, mais quand vous êtes dedans, vous voyez juste la surface intérieure. Et peut-être que cet aspect s'est introduit dans mes romans. En termes de nostalgie, je pense que pour le premier roman, surtout, c'est typique pour quelqu'un qui écrit son premier roman. Vous allez mettre tout ce que vous avez, tout ce qui vous vient à l'esprit, tous vos souvenirs, tout est intégré dans ce premier roman. Et c'est comme si vous êtes épuisé, vous avez tout, mais vous êtes drainé, épuisé. Donc dans les romans qui suivent, vous réagissez autrement, parce que la fiction ne veut pas simplement représenter un pays, mais c'est raconter une histoire. Et je pense que c'est là où on doit travailler dur. C'est quand on invente des choses et on les rend convaincantes. Donc, ce n'est pas la nostalgie. Moi, j'y retourne suffisamment pour que je sente que je connais bien.
Vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Vous vouliez poser une question? Non. D'accord, vous n'étiez pas d'ailleurs, donc la réponse était tout de même bienvenue. Eh bien, écoutez, le temps passe, on va être obligé de conclure. Je voudrais d'abord vous remercier beaucoup, tous les deux. Vous rappelez au moins le titre des derniers livres, Mother India de Manil Suri aux éditions Albin Michel et Fou et Divin de Sujer Kakar aux éditions du Seuil. Les deux livres sont traduits par Dominique Vitalios. Dominique qui va animer tout de suite la table ronde sur traduire les littérature indienne, et ça promet d'être passionnant, avec France Bhattacharya, Annie Monteau et Elisabeth Setupati, tout de suite, dans 5 minutes, le temps de se dégorgir les jambes, et voilà. Merci à tous les deux, et bravo à vous.